Donc, ce matin, comme vous avez sûrement vu dans le feuillet, j'ai été très imaginatif avec mon titre. C'est une exposition d'Éphésiens, tout simplement. Puisqu'on a terminé les 10 commandements le dernier dimanche que j'ai enseigné, il y a 2 semaines. Qui était un bon survol des 10 commandements. Puis je pense que c'était plus thématique, mais j'ai bien apprécié du moins l'étude. Donc vous avez, comme j'ai l'habitude de vous le faire, un petit plan dans le feuillet de la prédication, puis une petite place en dessous pour marquer des notes pendant la prédication. Vous savez, au cours du dernier siècle, plusieurs livres se sont écrits sur la prédication, sur l'art de la prédication, sur etc., etc. Il y a des cours qui se donnent sur comment bien prêcher dans les séminaires aujourd'hui. Plusieurs méthodes ont été mises de l'avant au cours de l'histoire et plusieurs styles de cultes ont vu le jour, des cultes de toutes sortes. Mais comment discerner le bon du mauvais dans tout ça? En fait, ce serait de se poser, est-ce qu'une méthode est vraiment mieux qu'une autre? Albert Mueller, le président du plus gros séminaire théologique américain, je pense que c'est le plus gros séminaire au monde, tout court, évangélique, énonce 6 points qui sont vraiment intéressants concernant l'état de la prédication moderne. Donc, l'état de la prédication de nos jours. Il dit, le premier point qu'il énonce, c'est « La prédication contemporaine souffre d'une perte de confiance dans la parole de Dieu. » Donc, évidemment, quand on rentre dans des églises évangéliques de nos jours, la parole de Dieu n'est plus vraiment au centre. Elle devient plutôt un prétexte. Donc, on a nos Bibles avec nous, souvent sur des iPads. C'est correct, rien contre ça. Juste pour être clair. Puis, on ne les utilise pas vraiment, ces outils-là. Ils deviennent comme un prétexte de pourquoi on va à l'église. Mais le culte, tout le long, il est vécu de façon où est-ce que la parole de Dieu n'est pas vraiment centrale. Parce qu'il y a une perte de confiance dans la parole de Dieu. Deuxièmement, il dit « La prédication contemporaine souffre d'une infatuation, c'est-à-dire d'une prétention ou d'un orgueil, avec la technologie. On a beaucoup d'outils de nos jours à notre disposition. Puis, autant qu'ils peuvent être des outils, ils peuvent être un détriment à un certain point. Donc, on va présenter des vidéos, toutes sortes de choses pour aller capter l'attention des gens, les divertir, mais en bout de ligne, peut-être qu'on oublie le message central. C'est pas tout le temps le cas, je tiens à le dire. C'est pas mal d'avoir sa Bible sur un iPad. C'est pas mal. Troisièmement, il dit, la prédication contemporaine souffre de l'embarras devant le texte biblique. Donc, souvent, les prédicateurs arrivent devant des textes et ne vont pas les enseigner parce qu'ils sont dans l'embarras de ce que le texte biblique dit. Et ça les met dans l'embarras. Premièrement, parce que beaucoup de prédicateurs ne sont pas équipés pour expliquer ces textes-là. Et deuxièmement, parce qu'ils ne veulent pas les expliquer parce qu'ils les comprennent, des fois. Donc, puis ils savent que ça peut avoir des répercussions négatives sur la façon qu'ils sont vus dans le monde ou même dans leur église. Quatrièmement, il dit « La prédication contemporaine souffre d'une absence de contenu biblique. » Un lien logique avec le reste des points qu'il énonce, mais effectivement, quand on va dans beaucoup d'églises modernes aujourd'hui, on se rend compte que la prédication, souvent, est dénuée de vérité biblique. Souvent, c'est plus des discours philosophiques, des discours motivateurs, mais c'est pas tout le temps des discours bibliques centrés sur la parole de Dieu. Cinquièmement, il va dire que la prédication contemporaine souffre d'un accent sur le besoin ressenti. C'est-à-dire que les prédicateurs aujourd'hui mettent beaucoup d'accent sur ce qu'ils pensent que les gens ressentent, ce qu'ils ont besoin de ressentir pendant une prédication. Donc, ils vont mettre l'accent sur une prédication qui est émotive, qui est forte. Ils vont avoir des systèmes de son faits pour ça. C'est assez incroyable. Tout est pensé, là. Et sixièmement, il va dire que la prédication contemporaine souffre d'une absence de l'Évangile. Donc, ultimement, ce qui souffre le plus, c'est que le message de l'Évangile, le péché, la repentance, le salut en Christ, est souvent peu annoncé, pas annoncé ou dilué de façon considérable. Et vous savez, bien que ce ne soit pas vrai de toute prédication, là, on doit faire attention, c'est pas parce que les églises n'ont pas le titre de réformé baptiste qui dilue la parole de Dieu nécessairement. La réalité, c'est que la prédication aujourd'hui est un acte démodé. C'est un acte démodé, c'est un acte qui n'est plus à la saveur du jour. Vous savez, dans plusieurs églises, d'ailleurs, contemporaines, à saveur très urbaine, hipster, on appelle plus les prédications des enseignements, des sermons ou des prédications. Parce que ça a trop l'image de quelque chose qu'on veut inculquer aux gens. Ce que c'est exactement. On appelle ça des discours. Des discours ou des réflexions. Parce que ça fait moins peur aux gens. Et aussi à cause que souvent, ça reflète mieux ce qui est dit. C'est vraiment pas un enseignement, c'est un discours ou une réflexion qui, dans bien des cas, est très peu profonde et pas remplie de convictions bibliques. Dans plusieurs églises modernes, les chants occupent presque, je vous dirais, 60% du culte, souvent. Et la communion fraternelle, peut-être un autre 20%. Les beignes, le café, très important. Et avec le 20, 15, 10% qui reste, on va mettre une sermonnette, comme MacArthur les appelle. Un petit sermon de 15 à 20 minutes qui dérange pas trop les gens, les bouscule pas trop, ils vont sortir, ils vont être contents. Vous savez, avant de bien comprendre le rôle de la prédication et la raison pour laquelle on y accorde autant d'importance dans l'Église réformée baptiste d'Actonville, dans l'association partout dans le monde, les églises plus conservatrices, je dirais, il faut comprendre ce que c'est la vraie adoration. Dans les églises évangéliques, le modèle principal de l'adoration est défini par la musique, incluant les nouveautés comme l'art visuel, l'art dramatique, la vidéo, etc. Ces choses-là prennent de plus en plus de place dans les cultes. La prédication joue de plus en plus un rôle secondaire à ces choses-là. Et vous savez, la grande vérité que ces églises ont oubliée en cours de route, c'est que la prédication de la parole de Dieu elle-même est la plus puissante forme d'adoration donnée à l'homme. Donc, la prédication de la parole de Dieu elle-même est la plus puissante forme d'adoration elle-même. Et je l'ai déjà dit dans un autre message, quand un prédicateur s'avance pour enseigner, il ne travaille pas, il adore. C'est de l'adoration, l'enseignement. Le travail se fait dans la semaine. C'est ce que personne ne voit qu'on fait à étudier les Écritures. Mais le dimanche matin, c'est un culte d'adoration qu'on donne à Dieu parce qu'on enseigne sa parole qu'on a étudiée. De donner et de recevoir la parole, la prédication, c'est un acte d'adoration. Et c'est l'acte d'adoration principal qui est principalement requis des croyants, en fait. Dieu nous lègue sa propre parole pour que dans l'enseignement, celle-ci soit adorée. Pourquoi? Simplement parce que elle nous permet de connaître Dieu. C'est d'apprendre à aimer et à obéir à Dieu, de connaître Dieu, de connaître sa volonté. C'est ce qui nous apporte au mode ou à la méthode de la prédication qui est choisie. Vous savez, il y a plusieurs modes, il y a plusieurs méthodes de prédication qui ne sont pas mauvaises nécessairement, toute la gang. Mais historiquement, les croyants fidèles aux Écritures ont reconnu que l'exposition biblique, ou des fois en français, ils appellent ça la prédication textuelle, était la meilleure méthode d'enseignement. Et je suis un de ceux qui croient ça. J'argumente ici que oui, il y a une méthode de mieux qu'une autre. Et ça a de l'importance. Je dirais qu'il n'est pas sain d'enseigner des principes qui sont vrais à partir de passages qui ne parlent pas de ces principes. Souvent, on va entendre ça, des prédications qui ont des vérités dedans, mais qui n'ont rien à voir avec le passage que le prédicateur a apporté. On décrit l'exposition biblique, j'en ai mis une petite définition dans votre feuillet, on la décrit comme suit, une méthode de prédication qui a pour objectif central l'explication et l'application du texte biblique. L'explication et l'application du texte biblique. C'est-à-dire que l'on ressort la signification du texte lui-même, au lieu de lui imposer une thématique ou de chercher ce qui fit alentour de ce qu'on veut dire avec notre message. Donc, on étudie le texte et on le laisse nous convaincre de ce que le texte essaie de dire. Parce qu'après tout, on croit que ce sont les paroles de Dieu. Donc, jusqu'à présent, ce que j'ai fait était un peu un hybride de, je dirais, thématique exposition. Je prenais les textes d'Exode, mais c'était beaucoup plus de la thématique. Et c'est pas mal non plus. Une fois de temps en temps, c'est bien. Sauf que de façon générale, on devrait rechercher à avoir des prédications qui sont par exposition, qui nous exposent les Écritures. Albert Mohler dit concernant cette méthode, et c'est une bonne citation, je vous invite à rester éveillé. Si le prédicateur est à expliquer le texte, il doit d'abord étudier le texte et consacrer des heures d'étude et de recherche nécessaires pour le comprendre. Le pasteur doit investir la plus grande portion de son énergie et de son engagement intellectuel, sans parler de son temps, à la tâche de dispenser avec droiture la parole de la vérité. Citation de 2 Timothée 2,15. Il n'existe pas de raccourci à l'exposition authentique. L'expositeur n'est pas un explorateur qui revient pour raconter des histoires de son voyage, mais un guide qui conduit le peuple dans le texte tout en enseignant l'art de l'étude et de l'interprétation biblique, tandis qu'il le démontre. Donc, le prédicateur s'approche du pupitre pour accomplir un objectif central, faire ressortir le message et la signification du texte biblique. Cela exige une investigation historique, un discernement littéraire, un usage fidèle de l'analogie de la foi, c'est-à-dire de l'interprétation des Écritures par les Écritures. Fin de la citation. Une bonne citation, mais je croyais que ça englobait vraiment bien la tâche que la prédication et le prédicateur doivent accomplir. Parce que c'est important pour vous aussi, c'est important pour moi, pour Georges, pour Sylvain, mais c'est important pour vous parce que vous recevez cette prédication. Évidemment, il faut préciser qu'il n'y a pas de méthodes qui sont parfaites. Je ne suis pas en train de dire que c'est une méthode infaillible. Nos cœurs sont faillibles. Il ne faut pas prétendre qu'une méthode est absolue. Ce n'est pas ça que je fais. Le risque d'être partisan, d'avoir un parti pris puis d'interpréter des passages comme on veut, est présent peu importe la méthode qu'on utilise. Il n'y a rien qui est par balle à ce niveau-là. Notre cœur est tortueux. Mais ça nous restreint dans la possibilité de faire ces choses-là quand on a une étude sérieuse de l'exposition biblique. D'autres méthodes sont aussi légitimes, comme j'ai dit, la thématique est souvent employée. Charles Spurgeon a décidé de prêcher la plupart de sa vie par thématique. C'est un des rares qui l'a fait d'ailleurs, mais il lisait des heures et des heures et des heures sa Bible par jour. Il faut vraiment être très imprégné, je pense, des vérités puis de la parole de Dieu pour se lancer dans ce genre de choses-là. Cependant, de façon générale, dans le contexte d'un enseignement suivi, je crois que l'exposition du texte biblique est de très grande valeur pour les raisons que je viens d'énumérer et pour ceux que je vais dire. Voici 3 choses qui caractérisent la prédication par exposition. Premièrement, elle est caractérisée par son autorité. Puisque le prédicateur ne fait que ressortir la signification originale du texte en l'expliquant et en l'appliquant à nos vies. Donc, l'autorité de cette prédication est vraiment plus définitive. L'autorité vient du texte, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Et le prédicateur peut avoir confiance en cette autorité, puisque ce ne sont pas ses opinions ou son enseignement. C'est définitivement l'une des seules méthodes qui permettent d'avoir l'assurance que le message qu'on livre n'est pas le nôtre, mais celui de Dieu. Donc, l'autorité du prédicateur est enracinée dans cet appel divin à prêcher. Et l'Église doit respecter l'office de prédication, mais en fin de compte, l'autorité ultime pour la prédication est l'autorité de la Bible en tant que parole de Dieu. C'est une citation d'Albert Muller. Je l'ai glissé comme ça. Deuxième point, c'est que la prédication par exposition crée un sentiment de révérence parmi le peuple de Dieu. Effectivement, la parole prêchée par exposition permet au peuple de Dieu, durant le culte, de contempler la parole de leur Dieu et d'apprendre à la connaître. Ça crée un sentiment de respect profond, un respect profond qu'on appelle la révérence envers Dieu. Luther disait à ce sujet que les gens qui écoutent une prédication entendent la voix du prédicateur, mais les paroles de Dieu. Ils entendent la voix du prédicateur, mais les paroles de Dieu quand c'est prêché par exposition. Et le troisième point, c'est que la prédication par exposition occupe la place centrale de l'adoration. Et effectivement, nos cultes doivent être centralisés autour de la prédication de la parole de Dieu. C'est celle-ci qui nous fait grandir, qui nous fait connaître Dieu. Et bien que toutes choses que Dieu a créées sont bonnes, autant la musique, la louange et toutes ces choses, la vie fraternelle, principalement la prédication nous apprend à connaître Dieu. Muller, encore une fois, dit quelque chose d'intéressant. Citation, il dit « En fin de compte, l'Église sera jugée par le Seigneur, non pas pour la qualité de sa musique, mais pour la fidélité de sa prédication. La prédication sera jugée pour sa... Le prédicateur sera jugé pour sa prédication et la congrégation sera jugée pour son écoute et pour la prédication qu'elle a demandée. » Je trouvais ça bon. Parce que ça met en perspective... On connaît bien la responsabilité du prédicateur, elle est assez claire dans les Écritures, mais il y a aussi une responsabilité à l'Église. Tout au long des Évangiles, on voit des épîtres de Paul, on voit que l'Église est appelée à discerner les choses qui leur sont enseignées. Donc, vous êtes redevables de ce qui vous est enseigné. Et aucune Église va pouvoir arriver devant Dieu et dire « Ah, mais mon pasteur n'était pas bon. » Mais tu aurais dû changer d'Église. C'est peut-être ça qui était la réponse, hein? Ou aller voir votre pasteur pour y en parler en premier. Nous avons donc collectivement la responsabilité d'exiger une prédication fidèle au texte biblique. Et c'est dans ce cadre-là, ce matin, que nous allons commencer une exposition d'Éphésiens. Une bonne introduction, hein? 15 minutes. C'est dans ce cadre-là qu'on va commencer une exposition ensemble d'Éphésiens. Et je suis vraiment content de commencer ça. Ça a été bien cette semaine. C'est beaucoup de travail de commencer. C'est un peu ce que je partageais à Georges, de commencer un nouveau livre. Il faut que tu t'imprègnes de tout ce qu'il y a, de toute la théologie, la lecture des commentaires, etc., de la Bible. Mais c'était bon. Le livre d'Éphésiens est certainement un des chefs-d'œuvre d'élégance du Nouveau Testament. Souvent, dans les épîtres de Paul, on va dire que Romains est comme le chef-d'œuvre théologique, si on veut, et on va dire que Éphésiens est le chef-d'œuvre littéraire, la façon qui est dit, c'est éloquent, c'est beau, c'est quasiment poétique, même si c'est pas un œuvre de poétrie. Nous y trouvons une multitude d'enseignements sur la foi chrétienne et sur les éléments centraux de la foi chrétienne. Pour étudier Éphésiens, je vais poser les bases contextuelles puis explorer un petit peu avec vous ce matin les grands thèmes couverts par Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, ça va être une espèce d'aperçu historique global, puis on va faire les salutations aussi. Donc, je ne veux pas faire de cette prédication une classe d'histoire nécessairement, mais un peu d'histoire et de contexte nous aide grandement quand on embarque dans l'exposition biblique. Donc, moi en plus j'aime l'histoire, fait que... Désolé si j'en ai trop mis, mais je crois que c'est important de creuser les contextes de cette façon. Puis ça nous aide, après ça, à réfléchir, à comprendre le raisonnement qui est en arrière des auteurs bibliques. Donc, premièrement, on va regarder au type d'écrit que cette lettre est et à l'auteur de cette lettre. Donc, la lettre de Éphésiens est une lettre appelée épître, donc on appelle un épître. Elle est traditionnellement crue comme étant de Paul. Bien sûr, certains théologiens, souvent libérales, ont trouvé une raison à quelque mort de mettre en doute le fait que la lettre est écrite par Paul. Mais ça, si vous lisez un petit peu de théologie, vous savez que tous les livres de la Bible sont contestés. Tous les auteurs de la Bible sont contestés. Il y a tout le temps quelqu'un qui va dire « Ah, c'est-tu vraiment lui qui a écrit ça? » C'est parce que de tester l'auteur de la lettre, c'est de tester l'authenticité de la lettre, évidemment. On voit dans cette épître plusieurs similitudes avec celle de Colossiens, qui est aussi du même auteur, de Paul. Et c'est vrai que si on met les deux textes côte à côte, on retrouve plusieurs parallèles entre Éphésiens et Colossiens. Parfois seulement en pensée, mais parfois vraiment textuellement, mot pour mot, ce qui est vraiment intéressant. Et sur cette base, certains ont dit qu'Éphésiens était seulement une copie amplifiée de Colossiens. Puisque certains manuscrits, et ça c'est un des aspects techniques, certains manuscrits retrouvés n'ont pas le mot « Éphèse » dans les salutations, ce qui a poussé des gens à remettre en doute tout ça. En plus d'avoir un contenu plutôt impersonnel, donc le contenu d'Éphésiens n'est pas situé dans un conflit, il n'y a pas rien qui est adressé très clairement, c'est très impersonnel comme lettre, ce qui n'était pas typique des autres lettres de Paul. Et plusieurs personnes avancent que ce n'est pas Paul qui en serait l'auteur à cause de ces choses. Vous savez, cependant, je crois qu'il n'y a rien d'anormal de constater que Paul, de sa main, aurait écrit Éphésiens une lettre qui ressemble au contenu théologique de Colossiens. En fait, si on y pense, c'est logique, là. Mais en moins spécifique, en plus impersonnel, en plus global. Paul avait certainement, vous serez sûrement d'accord avec moi, Paul avait probablement la capacité d'adapter son style littéraire à ce qu'il voulait enseigner, à ce qu'il voulait convier comme message. Donc, le contenu de la lettre n'est pas dénué du caractère de Paul. Quand on lit la lettre aux Éphésiens, on reconnaît quand même la théologie de Paul. Puis, il y a aussi le fait que Paul se nomme au premier verset de la lettre. Il faut donc croire, si on croit à l'espèce de thèse que ce n'est pas Paul qui l'a écrit, il faut comme croire qu'un espèce de forgeron aussi talentueux que Paul et aussi spirituellement sage que Paul aurait réussi à forger une lettre qui était dans laquelle on voyait même pas que c'était pas Paul qui l'avait écrit. Vous comprenez que ça commence à être difficile comme tâche. Ça commence à être un petit peu farfelu même. C'est peu probable que cette situation ait eu lieu. Origène, en 210-250, dans son travail appelé « Des principes », cite plusieurs passages d'Éphésiens qu'il attribue directement à Paul en l'an 210-250. C'est pas long après Jésus, ça. C'est aussi le cas de Irénée, de Clément d'Alexandrie et de Tertullien, qui sont tous des pères de l'Église. Donc, on voit des écrits de ces pères de l'Église-là presque 100 ans après la mort de Jésus, ou pas loin, qui considèrent déjà Éphésiens comme une lettre de Paul. Donc, bon aperçu historique qu'à ce moment-là, la lettre aux Éphésiens ne semblait pas être dans la controverse de l'auteur. Donc, pour ces raisons, c'est communément accepté parmi les cercles évangéliques, réformés, tout ça, que Paul est l'auteur d'Éphésiens. Le poids du témoignage historique de la sélection du canon, je m'embarquerai pas là-dedans, mais des pères de l'Église est aussi importante. Et ce n'est pas un argument qui est banal. On peut recevoir cet argument comme étant de poids. Donc, la sélection du canon dans l'Église primitive a été bien pensé, là. C'était des gens solides et... Bref, je ne veux pas m'embarquer trop loin là-dedans. Mais c'est un argument qui peut être historiquement reçu comme ayant beaucoup de poids. Le type d'écrit est un écrit épistolaire. Ça représente, en fait, la majorité des écrits du Nouveau Testament. En fait, les seuls écrits qui ne sont pas des épîtres sont les quatre évangiles puis Actes des apôtres. Parce que souvent, la majorité des gens considèrent comme Apocalypse comme étant aussi un épître. Donc, la plupart des textes du Nouveau Testament sont des épîtres. Et qu'est-ce qu'un épître? Un épître, c'est une lettre dans un style traditionnel de l'époque du 1er siècle. Et elle s'adresse souvent à des problèmes particuliers ou des gens particuliers. Donc, dans la plupart du Nouveau Testament, les épîtres étaient des lettres qui étaient quand même assez personnelles. Ça s'adressait aux Corinthiens, il y avait un problème à Corinthe. Paul envoyait une lettre à Corinthe qui était remplie, qui était inspirée du Saint-Esprit, etc. Sinon, ils sont considérés comme étant des lettres circulaires, c'est-à-dire qu'il était plus général faisant le tour des églises dans certaines régions. Il n'était pas adressé nécessairement à un problème spécifique. Mais, dans son contenu, c'est une lettre, comme on en écrirait aujourd'hui une à quelqu'un, mais c'était plus formel. Donc, il y avait des salutations, il y avait l'adresse, le corps et la conclusion. Donc, c'était une forme qui était employée communément, même à l'extérieur là, de la Bible. Si on lit des lettres, il y a des épîtres, si on veut, qui sont historiques, qui ne sont pas nécessairement inspirées de Dieu et dans la Bible. C'était quelque chose qui était quand même fréquent. Donc, ils n'ont pas inventé un style de communication nouvelle, là. Ils l'ont juste christianisé, si on veut employer ce mot-là. Donc, ils sont composés d'une adresse et d'une conclusion, parfois d'une salutation avec le corps principal de la lettre. Bref, une lettre est plus ou moins formelle. C'était commun de retrouver à cette époque, et ils l'ont simplement adapté à l'auteur, au style chrétien. Plusieurs théologiens, dont William Hendrickson et Sinclair Ferguson, croient que la lettre d'Éphésiens fut circulaire. Puis là, j'en ai nommé juste deux, mais la plupart des évangéliques aujourd'hui croient que la lettre d'Éphésiens était probablement une de ces lettres circulaires à l'intention de des églises de la région d'Éphèse, due en partie à cause de ce que je vous ai mentionné tantôt, sa nature un peu impersonnelle, où il n'y a pas de problème qui semble être adressé nécessairement. Donc, je vous épargne les autres points de vue académiques parce qu'il y en a, mais ils sont peu importants pour notre étude de toute façon, mais ce qui est important, c'est de reconnaître la destination de la lettre, qu'elle soit reconnue comme étant d'Éphèse. Donc, on croit que... Merci, mon frère. Nous croyons qu'elle soit circulaire à cause du style d'adresse plus vague, plus impersonnel qu'à l'habitude des autres lettres de Paul. Et à cause de d'autres points qui sont intéressants aussi, et que je n'ai pas vraiment l'intention de développer, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on croit que c'est une lettre circulaire. Étant une lettre circulaire plus impersonnelle qu'à l'habitude, le contexte la rend facile à appliquer dans nos propres vies, pas nécessairement facile à comprendre, mais elle rend l'application de la lettre d'Éphésiens plus facile, puisqu'on n'a pas tout le fardeau de prouver que c'est un contexte spécial, puis que l'on peut pas l'appliquer aujourd'hui. Éphésiens était une lettre envoyée à des églises, à Éphèse, dans un contexte un peu impersonnel qui était destiné à plusieurs gens. Donc c'est facile à appliquer aujourd'hui à nous à cause de cette chose. Néanmoins, depuis un certain nombre d'années, des historiens et des érudits de la Bible en sont venus à cette majorité, majoritairement à croire que c'était vraiment une lettre circulaire. La lettre fut probablement écrite, on pense, autour de 60-63, probablement quand Paul était à Rome en prison. Probablement en même temps qu'il écrit Colossiens aussi, la plupart pensent. Pas que ce soit hyper important, mais c'est le fun de se situer un petit peu Si on met ça en perspective, si la lettre a été écrite en 60 et que les premiers autres pères de l'Église en 150-200 qui ont formé le canon de la Bible ont dit que Paul était l'auteur d'Éphésiens, c'est même pas une génération, c'est des gens qui auraient pu connaître quelqu'un qui connaissait Paul. T'sais, c'est vraiment pas loin, c'est pas comme nous aujourd'hui là, quand on fait des études historiques puis qu'il faut reculer à beaucoup d'ancêtres. Donc c'est vraiment fiable. Donc, on embarque dans le contexte culturel et historique, qui n'est pas une grosse section de Éphésiens, mais c'est intéressant de constater que la ville d'Éphèse, en soi, se situe du côté ouest de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Et c'était la ville principale de l'Asie qui était sous le contrôle romain. Donc, la partie de l'Asie qui était sous le contrôle romain, Éphèse était comme la grosse ville. Je sais pas si vraiment il y avait pas vraiment de capitale puis tout ça dans ce temps-là nécessairement, là, mais c'était la ville principale. La ville était prospère en commerce, puis à cause de son port principalement et de sa location géographique, donc évidemment comme historiquement les ports étaient très importants, les bateaux voyageaient, le commerce se faisait beaucoup par bateau ou par wagon, par chevaux, mais il y avait pas vraiment beaucoup de rues, donc les ports étaient encore plus importants. Ben, en fait, les Romains ont commencé à faire beaucoup de rues, mais bref. En 133, avant Jésus-Christ, on pense que la ville comptait environ 300 000 habitants, ce qui, en proportion de temps biblique, représente une très grande ville. Même aujourd'hui, 300 000 habitants, c'est gros, là. Par contre, ce n'est pas ce qui faisait d'Éphèse son renom. Ce qui faisait d'Éphèse son renom, malheureusement, c'est que la ville était connue à l'époque apostolique pour son temple qui était dédié à Diane ou Artémis. Là, il y a comme plusieurs historiquement, il y a plusieurs bémols là-dessus. Là, on ne sait pas vraiment nécessairement ce qu'était le temple de Diane. Beaucoup disent que c'était probablement une grande bibliothèque, mais c'est une construction de très, très, très grande et merveilleuse. C'est vraiment beau. C'est incroyable. Et la ville était reconnue. Des touristes venaient pour voir ce temple de la déesse grecque. Le culte d'Artémis et les religions païennes sont aussi extrêmement présentes, comme pas mal partout dans cette région du monde à ce moment. Et le commerce tourne autour d'Éphèse, autour du culte aux idoles. Et on croit que la ville fut probablement le centre où Paul a écrit beaucoup de ses lettres, et plus tard, Jean. On croit que Jean va s'établir, quand il s'adresse d'ailleurs dans Apocalypse, à l'église d'Éphèse. C'est la première église qui est nommée dans les sept églises d'Apocalypse. Donc, ça semble être un noyau du Nouveau Testament, où est-ce qu'il y avait beaucoup d'activités qui se passaient et beaucoup de choses s'entremêlaient. Un gros chaudron qu'on brasse puis ça ramasse plein de choses. Moi, je fais des plats des fois de même. Ça donne ce que ça donne. Et maintenant, pour les thèmes centrales qui sont abordés dans l'Épître. Donc, tous les contextes et tout ça, c'est intéressant, mais de quoi l'Épître aux Éphésiens nous parle? Comme dans la plupart des lettres de Paul, de l'apôtre Paul, la lettre se sépare en à peu près deux sections. Une section au début qui est plus doctrinale, qui est plus théologique, qui est plus, je sais pas si on peut appeler ça de tête, là, mais qui est plus doctrinale dans sa façon d'aborder. Et une deuxième portion qui est beaucoup plus pratique, qui est beaucoup plus l'application de cette doctrine, de cette théologie de Paul. Et le thème central que l'on y retrouve sans équivoque, c'est à la fois la gloire de Dieu par l'œuvre de Christ, donc la gloire de Dieu par l'œuvre de Christ, ainsi que l'Église de Christ. Donc, vous devez vous imaginer qu'il y avait un gouffre à ce moment qui existait entre les Juifs et les Juifs convertis, entre les gentils et les gentils convertis, entre les Juifs convertis et les gentils convertis. Vous comprenez qu'il y avait beaucoup de catégories qui étaient formées à ce moment-là dans l'histoire. Et ça crée une dynamique assez unique à cette époque, qu'on ne retrouve pas nécessairement ici, parce que, bon, on pourrait peut-être, à la limite, comparer ça au catholicisme, là, une centaine d'années. Mais même là, c'est pas pareil. Le judaïsme était vraiment une théocratie, c'était une religion d'État. On était nés juifs, et on était israélites, on était nés juifs, c'était comme ça. Donc, il y a comme une espèce de gap qui existe entre tous ces gens. Et ça rendait la tâche pratique de l'Église, la formation de l'Église à ce moment-là, encore plus difficile. Et Paul doit, à ce moment-là, poser un fondement qui est solide sur la nouvelle identité du croyant au sein de l'Église. Donc, on voit tout cet aspect de la réconciliation cosmique. Là, ça paraît gros, là, mais la réconciliation de toute chose que Dieu a créée en Christ. C'est une image importante qui est employée à plusieurs reprises par Paul. Donc, le projet de Dieu, c'est l'Église qui se forme au travers de l'histoire rédemptrice du Nouveau Testament. Donc, l'expression « en Christ » revient très souvent dans la lettre d'Éphésiens, ce qui nous témoigne de ce que c'est d'être en Christ, entre autres par le biais de l'Église. Donc, je vous ai mis trois grandes lignes qu'on va voir au travers de nos études dans Éphésiens, de thèmes qui reviennent souvent, c'est-à-dire la composition de l'Église, comment l'Église est composée, comment elle se vit, l'unité de l'Église en Christ, et la valeur et la position de l'Église en Christ. Donc, ce sont tous des grands thèmes qu'on va aborder. Le thème de l'unité, principalement écuménique, dans son sens restreint à la vraie Église, je dirais. Donc, écuménique étant comme englobant toute croyance en Jésus-Christ, donc mais restreint à la vraie Église. Là, je l'utilise pas dans son sens très, très, très large, là. Je l'utilise dans son sens un peu restreint, et souvent abordé et clarifié par Paul. Donc, il parle souvent de l'Église dans le sens universel, dans le sens large, il parle de la vraie Église, mais il ne parle pas souvent de l'Église locale dans Éphésiens. C'est pourquoi on dit que la lettre a un ton impersonnel, puisqu'elle parle des grands thèmes, des grandes lignes de la foi et de la grande Église au sens large de Dieu. L'Église dans Éphésiens est souvent abordée dans son sens catholique, dans son sens universel. Paul nous parle de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle est en Christ, de ce que c'est le projet de Dieu au travers d'elle. Donc, à une époque comme aujourd'hui, où certains croyants tentent de redéfinir ce que c'est l'Église de Christ, c'est absolument primordial d'étudier un texte comme Éphésiens avec attention pour comprendre ce que c'est vraiment l'Église. Donc, il y a aussi certains sous-thèmes qui sont présents dans l'Épître. Je ne les nommerai pas, là, il y en a plein. Dans la première section de la lettre de Paul, on présente une excellente description des doctrines du salut et de ce qu'elle comprend. Donc, on va voir l'adoption, la justification, la sainteté, toutes sortes de choses. Tout est là. Un beau... je ne dirais pas une conclusion, mais un beau résumé de la foi chrétienne. On retrouve aussi quelques instructions pratiques concernant la vie d'Église, quelques instructions pratiques concernant la vie individuelle, notre foi en Christ, qu'est-ce qu'elle doit accomplir, comment elle doit être vécue. Donc maintenant qu'on a un meilleur aperçu global du contexte de la lettre, on va se plonger ce matin, dans les quelques minutes qui restent, dans l'exposition des versets 1 et 2, qui sont les salutations dans Éphésiens, versets 1 et 2. Je vous invite à tourner. Ça consiste en les salutations officielles de Paul. Donc, comme dans plusieurs autres lettres, Paul salue son auditoire. C'était une façon très formelle et officielle de faire les choses. Mais bien que les salutations ne soient pas communément quelque chose auquel on porte beaucoup d'attention, si on est franc, ils sont importantes néanmoins. parce qu'il ne s'agit pas strictement d'une adresse de lettre officielle, mais aussi d'une première déclaration qui donne le ton. Donc, une adresse donne le ton à la lettre. C'est là qu'on voit un peu la couleur de ce qui va se passer dans Éphésiens. Donc, on peut lire Éphésiens 1 et 2, excusez. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les salutations nous démontrent à la fois la spontanéité de Paul dans sa première élan d'éloge pour Dieu, mais aussi son but et ce qu'il désire pour l'auditoire. William Hendrickson décrit les salutations aux églises d'Éphèse comme à la fois une déclaration spontanée de son cœur et une composition soignée de son esprit. Donc, Paul s'identifie premièrement comme étant apôtre de Jésus-Christ. Vous savez, c'est d'une importance capitale que ses lecteurs à Paul sachent que Paul est l'apôtre Paul, pour qu'ils sachent que la lettre est inspirée de Dieu, inspirée du Saint-Esprit. Ce sont donc à la fois les paroles de Dieu, un peu comme on a lu la citation de Luther tantôt, mais inspirées de Dieu. C'est ce que l'inspiration est. Plusieurs fois dans les écrits de Paul, on le voit défendre son apostolat. Parce qu'il y a des gens qui doutaient, probablement à cause de son passé comme persécuteur de l'Église. Évidemment, si on voyait quelqu'un rentrer ici avec un machine gun, peut-être que la semaine d'après, même s'il se repent, on serait un peu craintif. Donc, vous pouvez vous imaginer que Paul étant le grand persécuteur de l'Église qu'il était, les gens avaient peut-être encore une certaine hésitation à son apostolat, à son autorité apostolique. Mais il s'identifie clairement comme étant Paul, l'apôtre de Christ, et que ses récipiendaires doivent recevoir cette lettre comme étant pleinement digne de l'autorité apostolique que Paul occupe. Vous savez, il avait été mis à part par Jésus-Christ, appelé non pas selon des hommes, mais par Christ lui-même, par un événement miraculeux dans sa vie. Jésus l'a rendu aveugle. Et comme il le dit lui-même, c'est par la volonté de Dieu qu'il est devenu apôtre. Le mot apôtre, un apôtre, qui est apostolos, c'est un envoyé, un ambassadeur ou un messager chargé d'exécuter les instructions de l'agent qu'il sert. Donc, c'est quelqu'un qui est envoyé, qui est ambassadeur, qui est représentant. Ça, c'est l'aspect générique là, du mot apostolique. Mais vous savez sûrement qu'un jour, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, personnellement, j'ai rencontré des gens dans un milieu plus charismatique qui se sont dit des apôtres. Mais est-ce que l'office apostolique tel que Paul avait et que les 12 apôtres avaient a continué encore aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui a continué dans l'histoire? Puis qu'est-ce qui permet à Paul de se déclarer comme étant apôtre? Des questions très pertinentes dans notre monde aujourd'hui, tandis que, comme je vous ai dit, beaucoup de gens se disent encore apôtres. Et voici une citation de John MacArthur à ce sujet. Il dit « Le fait est que le titre d'apôtre n'est pas seulement un terme générique pour l'Église à appliquer comme elle l'entend. Le terme signifie des personnes spécifiques qui font un travail spécifique à un moment précis dans l'histoire. Et pour comprendre la pleine signification de ce que le titre signifie, de tenir responsables les hommes et les femmes qui prétendent aujourd'hui être apôtres, nous devons examiner les marques bibliques d'un apôtre. » Donc la question est remise sur table, qu'est-ce que c'est d'être un apôtre? Vous savez, Luc applique le mot apostolos seulement aux douze apôtres. Comme je vous ai dit, le mot générique apôtre peut avoir plusieurs significations. On peut se dire apôtre dans le sens large de représentant ambassadeur, oui. Mais quand on parle d'apôtre de Christ, il y avait seulement les 12 apôtres qui avaient été choisis par Christ qui étaient apôtres dans ce sens-là, dans le sens biblique. Parce qu'il avait été appelé directement par Christ, par Jésus. Ils avaient été choisis par Jésus. Ils avaient été avec Jésus tout au long de son ministère. Ils avaient été témoins de sa résurrection et ils possédaient la meilleure connaissance possible de ce que Jésus avait dit et avait fait. Commandés par le Christ ressuscité et habités par le Saint-Esprit, ils sont devenus des témoins de l'œuvre salvatrice par Christ. L'identification des douze comme apôtres trouve son fondement non seulement dans l'utilisation d'un titre comme apôtre, mais dans le récit évangélique. Il trouve aussi dans la tâche qui leur est donnée par Jésus. Donc, ainsi, les qualifications essentielles d'un apôtre biblique est d'être appelé et envoyé par Christ lui-même. En plus de l'appel divin, la personne doit avoir été un disciple de Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à l'ascension, et plus précisément un témoin de la résurrection, selon Actes 1, 21-22, vous irez lire. Donc, c'était leur fonction première de l'apôtre était d'être un témoin direct, chargé par Christ directement de le représenter et de dire ce qu'il avait vu et entendu de Christ. Donc, à vous maintenant de me répondre, est-ce qu'il y a encore des apôtres? Non. L'autorité apostolique vient de l'inspiration de Dieu qui leur est donnée par les écrits de la Bible. D'être un apôtre, donc, c'est d'avoir une autorité divinement reçue de Christ. Et ce qu'il écrivait en tant qu'apôtre était normatif pour l'Église. Ça veut dire que c'était autoritaire. C'était l'Esprit de Dieu qui parlait. Et on a un méchant problème si on a encore des apôtres aujourd'hui. Parce que là, sont où les écrits autoritaires de ces gens-là? Vous savez ce qui serait un blasphème? De croire que certains écrits de Dieu qui sont inspirés du Saint-Esprit ne sont pas dans la Bible. Je suis persuadé que Paul a écrit d'autres choses, là. Mais c'était pas tout le temps l'inspiration du Saint-Esprit. Et je crois sincèrement que Dieu a préservé sa parole complète au travers de l'histoire de l'Église. Donc, nous voyons donc qu'il est clair que l'office apostolique a cessé après les 12 apôtres spécifiquement, nommés par Christ pour remplir un mandat unique dans l'histoire. Après avoir établi son apostolat auprès de ses lecteurs, Paul fait référence à eux comme étant des saints. Donc, on parle de Paul qui s'identifie comme étant apôtre à son identification de ses lecteurs, qu'il appelle des saints, saints et fidèles. La lettre est donc directement adressée à ces gens, à ces saints en Christ, et les fidèles d'Éphèse, comme Paul les nomme. Mais qu'est-ce que c'est d'être saint? Définition rapide. D'être saint, c'est d'être mis à part, d'être sanctifié, d'être consacré par Dieu et pour Dieu. Donc, nous sommes un peuple saint, en ce sens. Les saints et les fidèles sont donc un seul type de personne, c'est-à-dire que les croyants, les chrétiens de Éphèse. Puis Calvin disait dans ce sens-là que tous les saints doivent être un croyant et que tous les croyants sont saints par la nouvelle naissance de Christ, en Christ. Donc, Paul reconnaît par adoption céleste que nous sommes unis à Dieu en tant que saints. Dès le premier verset, le thème de l'unité de Christ, c'est-à-dire de lui appartenir et de lui être uni, se révèle. Au premier verset d'Éphésiens, il parle déjà d'unité. C'est pas écrit, unité, mais c'est clairement le concept de l'adoption de l'unité en Christ à quoi Paul fait référence. Hendrickson dit « Ce fut en vertu de l'union avec le Christ que les destinataires étaient des saints et des croyants. C'est ainsi par leur connexion avec lui qu'ils reçoivent toute bénédiction spirituelle. » Donc, l'adresse de salutation officielle continue de la part de Paul dans une bénédiction spirituelle pour les Éphésiens. déjà dans ces quelques versets de salutation, on peut reconnaître que Paul avait une affection particulière pour l'église d'Éphèse. Il prie que Dieu leur donne la grâce et la paix. Bien que la paix soit assez facile à comprendre d'un certain sens, la grâce, elle, peut parfois, dépendamment des textes, avoir une signification différente dans la Bible. Mais dans le cas présent, la grâce reflète sans aucun doute la faveur imméritée et spontanée de Dieu en action. La faveur imméritée et spontanée de Dieu en action, sa grâce. Paul communique dans ce sens qu'elle est librement accordée par amour et par bonté, conférant le salut sur des pécheurs qui sont coupables. Dans ce sens, on peut dire, comme l'hymne anglophone le dit, « La grâce est une fontaine. La paix et la grâce appartiennent au torrent spirituel des bénédictions qui sortent de cette fontaine-là. » Ceux qui connaissent l'hymne anglophone ont sûrement compris le lien, désolé si vous ne le comprenez pas. La grâce est un don de Dieu et le résultat de celle-ci est une paix de l'âme qui l'accompagne. Probablement la raison pour laquelle Paul prononce ces deux seules choses en unité. Donc, quand Dieu donne la grâce, la paix suit. La paix et la grâce sont véritablement une chose en pratique. Peter O'Brien, dans son commentaire, fait un lien intéressant entre les salutations et la louange que Paul rend, qu'il commence à rendre à Dieu au verset 3. Verset 3 qu'on va étudier un petit peu plus la prochaine fois, mais il dit « Paul attribue effectivement la louange à Dieu pour son puissant salut. La gratitude et la reconnaissance, une fois de plus, abondent au sein de l'apôtre, comme il se rappelle le merveilleux plan salutaire de Dieu en Jésus-Christ. En même temps, le paragraphe entier, qui est un hymne de louange, est destiné à instruire les lecteurs et les amener à leur tour à répondre en magnifiant et en glorifiant Dieu, qui est digne de leur adoration. Les éloges de Paul n'expriment pas un souhait, ils décrivent un fait. Béni soit Dieu, il proclame que Dieu est la source de bénédiction. » Et en conclusion, parce que je n'ai plus de temps, l'éloge que Paul fait dans les salutations est destiné avant tout à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la paix et la grâce aux Éphésiens. C'est Dieu qui nous donne la paix et la grâce par le salut en Christ. Nous devons nous rappeler que Paul le dit si éloquemment que Dieu est l'ultime auteur de notre grâce commune en tant que saint. Si nous sommes saints, c'est par la même volonté que Dieu a fait de Paul un apôtre, qu'il a voulu pour nous que nous soyons saints. Tout ce qui nous est révélé nous est donné comme un cadeau et tout fruit spirituel découle de sa volonté divine, premièrement. Et c'est ce ton que Paul donne à la lettre aux Éphésiens. Et c'est ce ton que l'on devrait garder en nos pensées, non seulement pour l'étude de notre lettre d'Éphésiens dans les prochaines semaines, prochains mois, mais aussi dans nos vies principalement, nos vies pratiques, que Dieu est l'auteur de tout ce qui est bénédiction, de tout ce qui est bon dans nos vies. La grâce, le salut, la foi. Dieu est l'auteur de ces choses. Prions. Merci Père pour ta parole. Merci parce que elle nous convainc, elle nous exhorte. Il nous encourage, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous, ton peuple, des hommes et des femmes saintes, un peuple fidèle, Seigneur, comme tu nous appelles. Nous voulons te remercier, Seigneur, de cette œuvre que tu accomplis en nos vies et te demander, Seigneur, le zèle et la hardiesse nécessaires pour continuer à vivre, Seigneur, et à combattre le bon combat de la foi. Merci pour cette Église, merci pour ce dimanche, ce jour qui t'appartient, Seigneur. Nous voulons te glorifier et te magnifier, Seigneur, dans qui tu es. Amen. Merci, un chant pour terminer.
Terminons avec un hymne, cantique numéro 2 de la famille de cantiques que nous avons fait. Grand Dieu, nous te bénissons.